Ça ne commence pas comme d'habitude. Et c'est normal. L'émission du jour pourrait s'intituler Pop & Souchon ou Souchon & Co. Lui ajouterait « C'est comme vous voulez ». Je vous propose donc la réécoute d'une rencontre avec Alain S. autour de son album Am 50s, qui sera réédité mi-novembre. Les concerts sont reportés à janvier, mais Souchon est là, jusqu'à midi, et sur France Inter.
C'est quoi votre émission, elle passe quand ?
Et ça s'appelle Souchon & Co.
Ah, oh, c'est quoi Co ?
Co, c'est...
Des copains ?
Oui, enfin, ceux que j'ai...
Copains.
C'est ça.
Yes. Souchon and copain. You're American, in fact. No, really. So, my friends are Laurent Voulzy. Yes?
Non, il ne fait pas partie du casting, Laurent Voulzy, pour cette fois.
Oh, you don't like Laurent Voulzy.
Ah, si, I do.
He's very clever, you know. He makes beautiful music. And... Yes, okay.
Non, dans And Co, il y a Pierre Souchon.
J'aime faire des chansons. Pour moi et pour les autres.
Oui, je l'aime bien.
Il y a...
Mon vrai nom sur mon passeport, c'est Charles Souchon.
Ours.
Mais sur scène ou sur les pochettes d'albums, je suis Ours.
Donc Charles Souchon.
Elles sont belles, les chansons d'Ours.
Maxime Le Guil.
Ah, vous avez vu ses cheveux ?
Il y a des cheveux magnifiques.
Oh là là, c'est dégoûtant, la vie, c'est injuste. Oui. Il y a des gens qui sont riches, d'autres qui sont pauvres. Il y en a qui ont des cheveux magnifiques et d'autres. Regardez les miens, ils partent en ouille. Et
c'est
lui,
un souci.
Il est là, avec tous ses cheveux... Très beau, il a fait des études supérieures de haut niveau et il fait des arrangements, il est dans la musique parce que ça lui plaît.
On écoutait énormément Souchon dans ma famille, donc j'avais beaucoup de pression, enfin beaucoup d'idées sur ce que pouvait être un album de Souchon parce que je me souvenais de partir en vacances pour écouter ça dans la voiture.
Et Clément Ducol, vous
il
êtes
a des
allé
cheveux
voir,
aussi.
Il fait venir des quatuors à cordes, il les conduit et ça donne des résultats ravissants.
Et nous, il nous voyait avec amusement aussi parfois. Me retravailler comme ça, puis être à moitié étalé par terre en disant « Oh, moi, je fais des petites chansonnettes, quoi. »
J'ai bien fait l'annonce de l'émission ?
Je veux bien encore une version.
Laurent Voulzy.
Non, il sera pas là.
Ah, il sera pas là, mais ça, il est là toujours, il
D'accord.
plane.
Mmh.
Comme Dieu.
Dehors, il voit s'en aller le pays de son enfance, les chevaux, le grand soleil. Leurs sabots, leur impatience, les mouches dans leurs oreilles, les chansons dans la taverne, country and western. Irène, Irène, l'amour est voleur, les soirs de fête. Irène, Irène, elle a pris son cœur, elle est partie avec. Irène, l'amour est voleur, les soirs de fête. Irène, Irène, elle a pris son cœur, elle est partie avec.
Je peux vous piquer un peu d'eau ?
Allez-y.
Merci, Reb. Les gens, ils vous appellent Reb ?
Ouais, ça arrive.
Ouais.
Et vous, vous avez un surnom ou pas ?
Non. C'est bien d'avoir un surnom, non ?
Ouais, ça fait...
Ça donne de la personnalité, tandis que moi, on m'appelle Alain. C'est pathétique.
Et Souchon, c'est votre vrai nom ?
Oui, c'est le nom de mon père, oui. Au départ, j'avais le nom d'un autre père, et Pienast, qui était un nom suisse, des gens très gentils, tout. Puis après, j'ai changé. Mon vrai père, il s'appelle Souchon, il était agrégé d'anglais, puis voilà.
Prendre un pseudo, vous n'y avez pas pensé ?
Ah si, j'y ai pensé. Quand on chante, on a son nom de famille, et on embringue tous les gens qui s'appellent comme ça, vers un truc qui n'est pas forcément leur truc. Moi, c'est plutôt des intellos, des universitaires et tout ça. Ça les intéresse pas tellement d'être au top 50. Et donc, ça crée des petits problèmes. Et si j'avais 20 ans maintenant, je m'appellerais, je sais pas, Renard ou Aigle. Renard ou Aigle, comme nom.
Oui, oui, j'ai bien compris.
C'est joli, non ?
Ah, ça vous va super bien.
Là, vous vous foutez de moi, là.
Renard ou Aigle ? Forcément, j'y ai pensé quand le noir s'est fait dans la salle. C'était une des premières dates de sa nouvelle tournée. Alain Souchon aurait pu arriver sur scène avec ses quatre musiciens. Tadam !
Avec plein de filles autour de moi en maillot de bain.
Mais non, il fait pas ça. Il entre seul, avec sa guitare en bandoulière. Renard ou Aigle ouvre son concert avec cette chanson-là.
Je marche tout seul le long de la ligne que je m'en fais. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. J'suis mal en campagne et j'suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait chier? Allô, maman.
Les grands qui m'ont séduit beaucoup, c'est quand même Bob Dylan tout seul avec sa guitare au début. C'était bouleversant de le voir arriver avec sa guitare, petite guitare, et de chanter ses chansons juste avec sa guitare devant des milliers de gens. J'ai toujours trouvé ça magnifique, de Georges Brassens arrivant, pose son pied sur le tabouret et en voiture pendant 2 heures, il vous embarque avec juste sa guitare. C'est merveilleux, quoi. C'est ce que je préfère.
Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman.
Et c'est marrant parce que il s'en fichait un peu, c'est-à-dire qu'il s'en fiche pas du tout de ce concert, mais...
Ça, c'est Charles Souchon, dit Ours. Avec son frère Pierre, ils ont suivi la création des concerts de la nouvelle tournée pour la lumière, les arrangements. Ils ont aussi proposé un ordre des chansons à leur père pour la scène.
Il a pas le regard, il avait besoin de notre regard, il dit, tu crois que les gens, ils ont envie d'entendre quoi? Alors, le choix des chansons, on a dit, bah les gens, ils ont envie d'entendre Allô Maman Bobo. Mais non, c'est ridicule, si je chante Allô Maman Bobo, j'ai 75 ans, j'ai pas chanté Allô Maman Bobo. Je dis, mais non, mais... Enfin, on le rassure, on lui dit que vraiment, faut qu'il soit complètement à l'aise avec ça, parce que les gens sont heureux de chanter cette chanson qui ont accompagné leur vie. On est dans les souvenirs, là, on a basculé dans... C'est des madeleines, c'est des chansons qui ont accompagné. Ah bon, il se rend pas compte de ça. Voilà, qu'on le veuille ou non, on est tous rentrés un moment dans une voiture où il y avait Allô Maman Bobo à la radio et ça fait partie de notre culture, de notre vie. Ça, il a du mal à réaliser ça. Il l'entend, mais il a du mal. Il se dit, après, je rentrerai plus dans le vif du concert, dans le vif du... Mais ça, voilà, pour lui, c'est tellement que les souvenirs, il est moins là-dedans, forcément, à 75 ans.
Mais en plus, dans le cas d'Allô Maman Bobo, pour le choix de cette chanson, c'est aussi l'un des traits du personnage Souchon. Dans la nouvelle image de chanteur qu'il a amené, dans les années 70, enfin aujourd'hui la virilité c'est le débat, lui il a quand même été l'un des premiers à faire ça. Oui. Donc c'est l'un des traits du personnage super important.
Exactement, il est allé à contre-courant. C'est ce qu'il se disait en faisant des chansons avec Michel Jonas quand ils se rencontraient. Il faut qu'on fasse des chansons que les autres ne font pas. C'est comme ça qu'il faut qu'on existe. Alors tout le monde était un petit peu à la Elvis Presley, à la Johnny... Le torse bombé, comme ça, un truc très très viril. Et puis lui, de dire allô maman bobo, l'homme un peu fragile, une féminité. Je suis mal en campagne, mal en ville, j'aime les fleurs. Les hommes aiment les fleurs et parfois même on pleure.
Enfin, ça m'a embêté d'être prisonnier, je me rendais pas compte. J'avais du succès, ça me bottait d'avoir du succès. Allô maman bobo, tout le monde aime bien, c'est mignon. Oh, il est vraiment gentil, il est doux. Puis je me suis dit, mais je suis prisonnier d'un truc, comme si j'avais toujours un pullover, un mohair bleu ciel sur moi et que j'étais... Alors après, j'ai fait le good, mais ça m'est venu naturellement. Le bagage de l'Anne Buet, tu la voyais pas comme ça, ta vie, pas d'attaché caisse quand t'étais... Des chansons plus violentes, plus rudes. C'est un peu plus en phase avec la vie telle qu'elle est, quoi. C'est un peu décevant, la vie. Quand on a 5 ans, on se dit, ça va chier des bulles. On se dit ça. Puis en fait, ça chie pas tellement des bulles. Enfin, c'est plus dur qu'on croit.
C'est pas
intéressant. Je vois dans vos yeux que ça vous intéresse pas du tout.
Mais si.
Je comprends en plus que c'est pas très intéressant, si.
Mais bien sûr que si.
Ah bon, pardon. Donc je me trompe.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient. Ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery. Les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage, derrière. I'm 50s. I'm 50s. Dans le radio là, André Verschuren. Les enfants soldats dans les montagnes algériennes. La Picardie est belle sur la route ravie en arrond de plein ciel qui rentre à Paris. I'm 50s. I'm 50s. Rue Campagne Première, personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dos. Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme. Gabin Bougon, Jeanne la fatale file au festival à 200 à l'heure dans le train Mistral. Bien coiffeur. I'm 50s. I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard. I'm 50s. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille. Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux Renault, Roger, Jacqueline, René, Micheline. Quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz. Une légère brise.
Am 50s. Paroles Alain Souchon. Musique Alain et Pierre Souchon. La première fois que Pierre a composé pour son père, c'était en 1993, il y a donc 26 ans. C'était pour l'album C'est déjà ça. Pierre avait écrit la musique d'une chanson intitulée Le fil. Et puis petit à petit, ils se sont mis à travailler à trois, père et fils, pour la musique d'un spectacle d'abord, jusqu'au nouvel album Aujourd'hui. Alain, plus Pierre, plus Ours.
Je crois qu'on a compris un peu ce que les gens aimaient de mon père, les tonalités qui lui vont bien. En vieillissant, sa voix a changé un peu, donc on sait que faut mieux baisser un peu les tonalités pour qu'il ait une voix plus posée, plus soufflée.
Quand Ours dit « on sait ce que le public aime de notre père », qu'est-ce qu'il aime selon vous, le public, alors ?
De ne pas être trop dérouté. S'ils l'ont accompagné pendant 40 ans, ils ont envie de retrouver le chanteur qu'ils ont aimé. Alors, de toute façon, il n'est pas comme ça, à vouloir tomber dans un jeunisme, mais on a voulu faire en sorte que, voilà, on le connaît bien. C'est comme l'habiller un petit peu. Il a fait les chansons, il est la matrice du projet, puis nous, on était là pour orner tout ça, faire des musiques, des mélodies qui aillent bien avec ses textes, et puis trouver des couleurs. Et c'est un petit peu comme l'habiller. Si on sait qu'il n'aime pas vraiment les chapeaux, alors on ne va pas lui mettre de chapeau, on va faire autre chose. On sait ce que les gens ont envie d'entendre chez lui. Sa voix, c'est un repère, une intensité, une simplicité en même temps. Et puis nous, on avait vraiment des idées précises au niveau des arrangements. Et c'était un plaisir pour nous d'aller dans des directions. On s'est aperçu qu'il pouvait aussi bien chanter des chansons sur des trucs très synthétiques, un peu froids, comme une chanson qui s'appelle Le Dégoût, qu'il a fait il y a 25, 30 ans, 40 ans. Et si en plus il n'y a personne, ou C'est déjà ça, qui sont des chansons assez froides dans la production, et puis en même temps des choses très chaudes, très reggae, comme La vie ne vaut rien. Il peut se permettre de se balader sur des couleurs musicales très différentes. Et donc voilà, nous on savait un peu ça, et ça nous a plu de l'habiller.
Pareil donc. Faire gaffe à pas être dans un jeunisme, comme Pierre l'a dit, à faire des arrangements moderne.
C'est quoi les arrangements à la mode moderne?
Bah alors aujourd'hui, c'est un pied sur tous les temps.
Poum, 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 poum.
Une référence
poum,
urbaine.
Poum. Une référence de musique urbaine, c'est un petit peu ça en ce moment.
Un pied sur tous les temps avec une guitare un peu africaine. Bien évidemment, on n'allait pas tomber là-dedans, mais enfin, en tout cas, de faire des arrangements assez intemporels, avec du grain, assez organique, c'est-à-dire avec des vrais pianos, des vraies guitares, des vraies batteries, pour être classique et ni être démodé, ni être dans la mode, ni, enfin voilà, juste intemporel, qu'on retrouve sa voix, la chaleur de sa voix et cette sincérité.
Avant d'entrer en studio, Alain Souchon, Pierre et Ours ont commencé par enregistrer des maquettes. Je vais vous faire écouter celle d'Am 50s. Dans cette première version, la chanson ne s'ouvrait pas par un couplet, mais par son refrain.
Quand c'est l'heure exquise, vient sous la marquise, une légère brise, c'est l'Am 50s, l'Am 50s. Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient.
Ce sont des démos comme celle-ci que Maxime Le Guil et Clément Ducol ont écoutées avant de co-réaliser et arranger les chansons de l'album. Là, on est à Bagnolet, dans un sous-sol, dans le studio de Maxime Le Guil, face à deux ou trois écrans d'ordinateur, je ne sais plus. De haut en bas, il y a des traits de couleurs superposés. Sur un écran d'ordi, une chanson ressemble donc à une mosaïque. Ce sont les pistes instrumentales et vocales du morceau. Ce sont les dessous d'Am 50s.
Musicalement, elle nous a touché énormément, en fait, tout de suite. Dès la démo, en fait, il y avait quelque chose qui était très fort dans le piano, dans les mots. Ça essayait pas de faire une chanson efficace, ou alors ça essayait pas de faire une chanson triste. C'était juste... c'était juste une belle chanson, en fait.
Alors, est-ce qu'on peut écouter des choses qui, selon vous, sont vraiment les plus significatives de ce morceau, Am 50s?
C'est une chanson qui a une forme qui évolue beaucoup, en fait, au fur et à mesure de... Mais même si, en fait, la colonne vertébrale reste la même, c'est ça que je voulais vous trouver. Globalement, la batterie donc, qui rentre... Donc ça, c'est le premier couplet. Et si vous passez au deuxième couplet, c'est globalement la même chose, un peu de choses près. Et en fait, toute la sensation d'accélération, d'image, les montagnes, le deuxième couplet, les montagnes algériennes, etc., c'est rajouté par les arrangements de Clément, qui vient rajouter... Et toute la sensation d'urgence, si on enlève les cordes, là, on n'est plus dans une balade, un peu contemplatif, et tout d'un coup... Une partie de l'accélération qui se joue là-dedans, je pense.
Ouais, les cordes et le oud de Michel Cauchemann qui fait les guitares sur le disque, mais qui joue aussi du oud et des instruments extra-européens assez intéressants, et voilà qu'on entend là, qui est mêlé aux cordes. Qui apportait un côté encore un peu plus âpre à ces cordes-là, comme elles avaient un élément rythmique important à jouer. Lui, il nous rajoutait un petit piquant, créait une matière intéressante.
La basse, donc.
La basse qui, en fait... Je crois que rapidement, Laurent Werneret avait trouvé ce petit motif, celui-ci, qui arrive, qu'on a ensuite doublé à la guitare électrique et on a fait un vrai riff, en fait. Par exemple, ce riff, qui finalement est un des riffs les plus forts du deuxième couplet, il n'était ni écrit ni conceptualisé, simplement, il y a le batteur qui joue, Laurent est à côté, il joue, il trouve un riff, tout d'un coup on se dit « Ah, c'est super !» Et finalement, c'était un peu le rôle de se dire, c'est un moment, c'était d'identifier les moments, on avait des super musiciens, et donc c'était surtout d'identifier les moments pertinents pour illustrer la musique d'Alain Souchon, quoi.
C'est intéressant, ouais, ce que dit Maxime, c'est qu'au-delà des références qu'on peut avoir a priori ou des envies, c'est effectivement en laissant parler aussi les gens qu'on a autour de nous qu'on arrive à faire des choses, notamment avec ces super musiciens qu'on avait. Et pour les cordes, donc il y a ce rôle rythmique, il y a un rôle aussi un peu plus lyrique au début, qui tapisse, qui rejoigne plus le rôle de la basse, quoi, qui lie un peu toutes les valeurs longues au début. C'est aussi intéressant, moi j'aime bien que dans un morceau, les cordes, au même titre que, je sais pas, une guitare par exemple, elles puissent avoir un rôle parfois de batterie, et parfois au contraire de lyrisme et de romantisme, qu'au sein d'un morceau on entende aussi cette évolution.
Et d'ailleurs, en fait, c'est dans le refrain, essentiellement un mélange de cordes et de guitare. En gros, la ligne était globalement écrite dans la démo, je crois, Clément, c'est ça, hein, globalement la ligne principale, c'est-à-dire, si on la retrouve, c'était une ligne qui était un petit clavier, en fait.
Clavier, ouais.
Ça devait être ça.
C'est modeste.
Voilà, et en fait, de cette ligne est parti le refrain qui finalement, lui, pour le coup, est pas du tout modeste, c'est très épique. C'est un ensemble de cordes et de guitares. Qui, il me semble, donne un côté très cinématique, presque un peu Morricone au refrain.
Pardon, mais moi, je trouve ça un peu orientalisant.
Aussi, ouais.
Non ? Oui.
Si, c'est vrai.
Un côté un peu mélopé, quoi.
C'est vrai.
Ouais, c'est les demi-tons. Pour le coup, je pense que c'est la ligne mélodique qui est un peu orientale, plus que les matières, je pense.
Et après, dans le côté épique dont parlait Clément, arrive à partir du troisième couplet, il y a un contre-chant que moi je trouve incroyable, je me souviens, c'est Clément l'a trouvé en studio à la fabrique un soir. En fait, à la base, c'était pas prévu, pareil, tu vois, c'est marrant comme quoi, finalement, quand on retrace le processus, rien n'était prévu. On voulait réenregistrer le piano de base, qui est, pour le rappeler, la colonne vertébrale du morceau, hein, qui est ce piano-là. Et donc il était prévu que Clément réenregistre ça, parce que ça c'était un piano de démo qui était un piano électrique, et on s'était dit, ah, ce serait super conceptuellement de le réenregistrer. Et finalement Clément était au piano, et en arrivant sur le couplet 3 il a joué ça. Donc on sort du refrain 2 et là il fallait que quelque chose arrive. Pour l'instant rien n'avait été vraiment écrit, et il est arrivé avec ça. Là, j'ai les mêmes frissons qu'au moment où on l'a enregistré ce soir-là. Il devait être, je crois, minuit, je sais pas, là, ça m'a refait la même chose. Pour moi, c'est un des plus beaux moments de la chanson.
Ouais, non, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, effectivement, on voulait refaire le piano. Là, ce qu'on entend, c'est un piano à queue, en plus. Hein, on l'avait fait au gros piano de la fabrique. Du coup, c'est intéressant aussi, parce que ça ouvre encore un autre spectre harmonique. Par rapport à ce petit piano, comme dit Maxime, qui est la colonne vertébrale et qui est plus sec, plus intime, là on ouvre un petit peu les fréquences et tout, ça nous permettait aussi ça d'ouvrir un peu.
Est-ce qu'on peut juste réécouter, encore une fois, ce petit piano qui fait presque boîte à musique, en fait?
Super.
Est-ce qu'on peut écouter la voix? La voix seule?
La voix seule. L'humilitron, comme l'appelle Vincent Delerme.
Le quoi?
L'humilitron.
Pourquoi le mini-tron ?
C'est une blague, c'est une blague de musicien, mais parce que le mélotron, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un instrument qui imite les cordes et les cuivres. Et lui, Vincent, à chaque fois qu'on écoute sa voix seule, il dit « Oh là là, c'est l'humilitron ». Parce que on n'est pas censé écouter une voix toute seule comme ça. Et on entend forcément tous les petits défauts qui font le charme aussi. Mais...
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery.
C'est quasiment que parler.
Ouais, c'est marrant. C'est marrant parce qu'on n'a pas l'habitude de l'écouter toute seule, la voix. Et là, effectivement, on dirait qu'il déclame dans une église. Son texte est hyper beau.
En fait, c'est très rare qu'on isole les pistes, finalement. Et donc, c'est intéressant.
Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, Monique, Frégate, Transfluide, Vedette, Abeille, Patrick.
Beaucoup d'éléments des maquettes ont été gardés dans les versions définitives, et notamment les voix. En fait, c'était ce qu'on appelle au début des voix témoins. On demande à mon père de chanter pour après construire autour de sa voix, autour de sa mélodie, et pour habiller la chanson. Et en fait, la voix de M50s, c'est la voix qu'on a enregistrée dans des conditions pas forcément professionnelles, à la campagne. Avec mon micro, on était mon frère, mon père et moi. Et d'ailleurs, dans M50s, à la fin, il s'emballe en énumérant des noms, des prénoms. Et ça, c'est un peu une impro. Il l'a fait comme ça. Et après, quand on a voulu refaire la voix et refaire ça, refaire cette énumération, ça devenait très scolaire. Et ça n'avait plus la même envolée et la même fraîcheur. C'était scolaire. Il récitait des noms. Jean-Claude, Marianne... Il avait fait juste deux prises, et avec Pierre, on a pris les meilleurs mots des deux prises, voilà, c'est tout. On a gardé ça.
Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux Renault, Roger, Jacqueline, René, Micheline. Magali.
Avec Alain Souchon, là, on est paumé.
Bah, elle est là, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, je sais pas.
Moi non plus.
Je vous ouvre en tout cas.
D'accord. Parce qu'on était perdus, vous savez, sans vous, on était foutus. Hein.
Nous sommes dans le 18e arrondissement, tout au nord de Paris. Alain Souchon m'explique que l'endroit où on est était un ancien garage pour les bus. Et c'est devenu une maison de disques. Il a été en résidence ici pour les répétitions des concerts de sa nouvelle tournée. Et on s'installe, tous les deux, dans un petit salon.
Vous voulez un coup à boire encore,
ouais.
Nous Allez, on y va. Allez, à la tienne, Étienne.
Vous vous aimez travailler en studio? Les sessions d'enregistrement, tout ça?
Le travail de studio, pas tellement. J'aime bien marcher dans la nature et trouver des phrases, rentrer chez moi en disant « Putain, j'ai trouvé une phrase géniale et tout, je la note et tout. » Puis après, je la perds souvent. Mais ça, c'est mon métier. Après, le studio m'a toujours fait peur. Je me disais « Il y a tant de boutons, tant de possibilités de mettre de la réverb, de là. » Je me disais « C'est pour pallier quoi ?» C'est pour pallier quoi ? Une chanson, c'est des paroles et de la musique et puis la voix d'un homme. C'est ça l'important. Et en même temps, il y a des choses merveilleuses à faire. Ça peut être tout un truc, comme fait Christian and the Queen et tout. C'est les gens qui travaillent le son et tout, et c'est très intéressant, mais ça ne me passionne pas, moi. Il y a des gens compétents, je suis content de les retrouver et qu'ils fassent le travail à la place, puis qu'ils me posent des questions. Je dis oui, c'est joli.
Ah, c'est joli ou c'est pas joli?
Oui, ça va pas plus loin que ça.
Oh, mais... c'est pas vrai, je vous crois pas.
Oh, faut mettre plus de reverb. Je sais pas. Ce qui me touche dans les chansons, c'est les musiques. Les musiques qui vous embarquent. La musique. Elle vous fait pimpon, 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 alors, parce qu'elle vous charme. Ah oui, 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 puis ça vous attire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça raconte. Ah, là, Jim est parti dans sa bagnole, sa gonzesse est partie, alors il veut se flinguer avec sa bagnole, il va trop vite. C'est sympa. C'est comme ça, une chanson. Je parle trop, hein.
Ça va devenir un gimmick.
Yes. You're American.
Vous savez quand c'est bien?
Il arrive un moment où on trouve ça bien. Ça ne veut pas dire que tout le monde trouvera ça bien, mais il arrive un moment où on est content. C'est vrai. Et c'est un moment qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. On cherche à être heureux, de dire « Ah, oh, je suis content, j'ai trouvé ça. »
De quelle phrase vous seriez content?
Et si en plus il y a personne?
Abderrahman, Martin, David.
Et si en plus il y a personne? C'est le titre de cette chanson et d'un album d'Alain Souchon paru en 2005.
Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus il n'y a personne?
Là, c'est quand même la première fois sur un album à lui où vous avancez autant à trois.
Bah parce que...
Réponse d'Ours et Pierre Souchon.
Alors on... Bah parce que...
Quand je dis avancer autant à trois, c'est aussi même médiatiquement, quoi. Vous pouvez aussi donner des interviews tous les trois, ou...
Ouais, ouais, c'est vrai, et même on refuse beaucoup de choses encore. On accepte toutes les choses qui, lorsqu'on doit parler de notre métier, comme maintenant. Mais tout ce qui est un peu...
Quand c'est légitime, quoi, quand il y a quelque chose d'artistique, quand même, si c'est uniquement parce qu'on est les fils d'Alain Souchon. Parfois, c'est souvent ça le thème, c'est les fils d'eux. Il y a un truc un peu triste pour nous, donc c'est pas tellement légitime. Mais si on parle vraiment du travail concret comme on l'a fait, nous, on aime bien.
Mais c'est vrai que ça a changé, je pense, parce que le temps passe et que on a grandi, qu'on est maintenant, on a un peu le même âge, mon père, mon frère et moi maintenant.
Ah ouais. Pourquoi vous dites ça?
Bah, on est moins le père et ses enfants, ça s'est un peu effacé. On est un peu sur le même terrain. Alors en plus, mon père, plus il vieillit, plus il a un côté enfantin. Il enlève des filtres qu'on met à un moment, et donc du coup, il a un côté assez enfantin en vieillissant. C'est marrant et mignon. Et puis nous, on vieillit un peu, donc voilà.
Il dit, moi, ça y est, quoi, ma carrière, elle est faite. Il est plus dans la même urgence qu'avant. Avant, il était même beaucoup plus anxieux. Et puis, il a été assez absent comme père, donc je pense qu'il est aussi content qu'on profite des moments ensemble. C'est pour ça qu'il aime bien travailler avec nous et que ça le rassure. Il dit que ça le rassure parce que est arrivé un moment où nous, on était un peu dans nos chemins, à pas être, déjà qu'on est un peu dans son ombre, donc de pas trop être collé à lui. Et puis maintenant que voilà, on digère un peu tout ça, qu'on fait des choses chacun de notre côté, puis que le temps passe et on passe vraiment des bons moments à être ensemble. Et c'est être avec nous, il est plus cool en fait. Il est beaucoup plus cool qu'avant, où il était plus anxieux.
Alors attends, tu le fais en seul.
C'est presque toi, presque moi, ces amours dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Ces amours dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour.
Aimez vous, là, elle vient de mettre une coiffure de chaque côté, deux boules. Voilà.
C'est un casque, donc.
Ah oui,
un casque, pour écouter quoi? Pour mieux vous entendre. Ah. Pour vous, la chanson, ça a à voir avec la jeunesse?
Ah oui, l'adolescence. Le début des tourments d'amour et tout ça. Quand on a 19 ans et qu'on commence à faire des chansons, le principal sujet, c'est « Ah, oh, cette fille, quand elle marche, son derrière bouge un petit peu, c'est magnifique. Oh là 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 là. » Oui. Alors qu'en vieillissant, les sujets peuvent changer, mais on reste quand même toujours à regarder les fesses des filles quand elles bougent un petit peu, légèrement, pas trop, hein. que quand elle marche, ça inspire. Me too, ça fait Me too un peu.
Ça fait pas vraiment Me too, non, mais bon. Bon. Vous dites les filles, vous.
C'est un exemple.
Oui, mais vous dites les filles, vous dites pas les femmes.
Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Les femmes, c'est emphatique, je trouve. Les femmes, ça met tout dans un ordre important. Et, tandis que les filles, ça fait partie de la vie légère qu'on a dans la tête. On les voit passer avec leur joli sourire et tout. On n'est pas... On a 19 ans, 18 ans.
Les filles, c'est super.
Toute la vie, on a 18 ans.
J'espère.
Ben oui.
La première phrase d'Am 50s,
c'est ferme les yeux, vois.
Du coup, c'est la promesse d'entrer dans un album photo.
Ouais, c'est bien. Exactement.
Vous écrivez pour fabriquer des images.
Oui, exactement. Et mes chansons, c'est souvent des photos. Après, je chante une chanson qui s'appelle Le terrain en pente, où je dis que je monte au-dessus de la ville, souvent, ce que je fais vraiment, et que je regarde la ville et ce que je vois. Je romance un peu parce que je vois pas vraiment les gens vivre et tout, mais c'est une photo quand même du monde actuel avec des gens qui peinent parce qu'on ferme leur usine. Et j'aurais adoré être photographe, je ne sais pas faire les photos et j'ai pas un sens esthétique. Mais j'aime bien ça quand ça fait comme une espèce de film.
Et en même temps, vous vous êtes beaucoup attaché à la poésie classique.
Oui, beaucoup. Les vers de Racine qui sont complètement oubliés, tout sont sublimes. Ou Guillaume Apollinaire, c'est inimaginable parce que c'est beau. Moi, ça me transporte. Longtemps, j'ai lancé des baisers à la porte où s'est engouffrée cette femme, cette dame que j'ai suivie pendant 2 heures à Amsterdam. Ça fait hyper Me Too. Il en sent qu'il a suivi une femme, qu'il a harcelé un peu et tout. Et en même temps, après, il reste devant la porte où elle a disparu, puis il lui envoie des baisers sans arrêt. J'adore Guillaume Apollinaire.
De la poésie classique, dans vos chansons, vous avez gardé vraiment le souci que ça rime.
Ah bah oui.
C'est-à-dire qu'il y a à la fois le souci de la légèreté.
Oui.
Et en même temps, une rigueur.
Oui, c'est ça que j'aime. J'aime la rigueur. J'aime la rigueur qu'impose la construction d'une chanson, les rimes. La poésie moderne, on me dit souvent, mais vous connaissez pas ce qui se passe en poésie maintenant. Et j'ai dit, oui, mais bien sûr, il y a sûrement des... Mais ça me dépasse, je n'arrive pas à comprendre, ça s'intellectualise beaucoup et tout. Moi, ce que j'aime, c'est la rigueur de la rime et de la cadence des mots, qui datent de toujours, et de Ronsard, et les Grecs, et tout ça. Et j'aime bien qu'il y ait cette rigueur-là, ce cadre, cette obligation, que ce soit comme ça, que ça rime. Ça fait une musique, en soi, rien qu'à lire, c'est de la musique, déjà. Les poèmes de Ronsard, et tout ça, c'est beau, j'adore Ronsard.
Ronsard, il est présent dans le disque.
Ouais, oui.
Vous en avez fait un blues.
Un petit, oui.
Ronsard à la Bame.
C'est ça qui est beau chez Ronsard, c'est que ça résume bien la vie, c'est-à-dire que les filles sont jolies et puis que on va mourir.
Jamais l'homme avant qu'il meure ne demeure. Jamais l'homme avant qu'il meure ne demeure. Heureux parfaitement avec la liesse, la tristesse. Car toujours avec la liesse, la tristesse se mêle secrètement. La 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 la, la 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 la.
Faut que ça pète, alors ça va péter. Et mesdames et messieurs, voici Souchon & Co. avec tous ces gens. Co, ça veut dire Ours, Pierre Souchon, Maxime Le Guil, Clément Ducol, Rebecca Manzoni, toute la bande.
Qu'est-ce que vous vouliez faire, vous, à 16 ans? Vous vous imaginiez comment?
Ben, je m'imaginais dans un truc très proche de la nature. Ce que j'aime, c'est la nature et la culture. Bien connaître du Bellay, Ronsard, Apollinaire, les vers de Racine qui sont si beaux, d'admirer des gens comme François Sagan, des gens un peu dingues et qui sont fascinés par la culture, comme Sylvain Tesson qui est très cultivé et qui en même temps traverse la France à pied. Ça, j'aime ça.
Sagan, il y a un côté ultra séduisant.
Bringueuse.
La déglingue aussi.
Déglingue, que j'admire beaucoup. Je vois qu'elle allait claquer tout son pognon au casino de Deauville et tout. Je me dis, c'est merveilleux, elle n'avait rien à foutre de rien. J'admire la déglingue et moi, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis plutôt du côté des moines. Je regrette de ne pas être bringueur. Je suis trop sérieux. Tout en aimant déconner, mais je suis sérieux. Danser ivre mort, tout nu, sur une table, par exemple. Bon, prenons cet exemple simple. Eh bien non, je suis ce qu'on appelle un ennuyeux. Non, c'est vrai, c'est ennuyeux d'être comme ça. Je suis ennuyé d'être ennuyeux. J'aime bien être seul dans une clairière, dans une forêt. Je me dis, je suis seul, ça me plaît.
Et en même temps, quand vous êtes sur scène, il n'y a pas...
On est seul sur scène, très. C'est un métier où on a l'air d'être très entouré, où il y a du bruit. Et donc on se dit, mais en fait, les chanteurs, ils sont tout seuls sur scène. Mick Jagger, il a la chance d'être avec des copains d'enfance. Et donc...
Ça se passe pas toujours facilement.
Mais il est tout seul quand même. Hein. Et lorsque Keith Richards a écrit son livre et qu'il expliquait qu'il avait fait un disque tout seul, il disait, je me suis toujours foutu de la gueule de Mick parce qu'il tortillait son cul comme ça, mais dans le fond... Maintenant que je suis devant, je vois que c'est pas du tout la même chose. On est très seul. Le chanteur, il a peur de se tromper, il a peur d'avoir l'air godiche, il a peur de plein de trucs. Et en même temps, il y va quand même. C'est difficile à expliquer. Mais de toute façon, on n'est jamais très à l'aise. Hein, mais on fait le mec à l'aise.
Qui est-ce qui vous a donné envie de monter sur scène?
Je crois que ma mère m'a emmené voir Gilbert Bécaud. Le dimanche après-midi, quand Gilbert Bécaud était tout jeune, qui bondissait sur scène, il sautait dans la salle, il chantait des chansons, la sono était très forte, on sortait de chez nous, c'était triste chez nous parce que mon père était mort et tout ça, alors il y avait une ambiance un peu pesante, elle m'emmène à l'Olympia, je vois Gilbert Bécaud qui dit, putain, mais c'est extraordinaire, il fait des bons, le Pierrot qui danse, il sautait dans la salle et tout, je me dis, putain, mais c'est dingue, il était assez beau garçon et tout. Je sais pas, il devait avoir 35 ans à l'époque. Oh là là, je me dis, non, mais c'est dingue ce truc. Et puis après je suis allé en Angleterre, j'ai vu les Beatles et tout ça. Alors tout ça me fascinait.
Là on mange des fish and chips en disant pussy, il y avait la reine d'Angleterre. Aussi sur celle-là c'est le jeune Mick. Sur le quai de la gare, qui regarde les disques de l'autre Lascar. On se ramène les cheveux vers l'avant, les lavant, pour que tout soit un peu comme avant.
Alain Souchon est en Angleterre au début des années 60. Il doit y passer son bac, mais l'école coûte trop cher. Alors il fait des petits boulots, il raconte qu'il essuyait du vomi dans des pubs. Mais il y a surtout la pop, anglaise, qui a changé sa vision de la chanson française.
Moi, la chanson française, elle était assez plaintive et poétique, de ce que j'en connaissais. Puis il y avait les chansons populaires de Dalida et tout ça, mais il y avait d'un seul coup une sorte de joie de vivre qui allait avec la danse et les surprises parties. Et les chansons des Beatles faisaient vraiment partie de ça. Tout en étant sophistiqué harmoniquement, et c'était très différent des plaintes de Jacques Brel, de Léo Ferré, c'était très différent de ça. Il y avait un côté joie de vivre et en même temps intelligent, musique intelligente. Alors ça m'a influencé, mais je ne savais pas bien faire ça, et c'est en rencontrant Laurent Voulzy que j'ai eu la chance de pouvoir faire des chansons avec de la musique un peu sophistiquée, et qui donne envie de bouger aussi. Le mélange avec ce goût pour la poésie, ce goût pour la musique, j'aimais beaucoup Jean-Sébastien Bach, le côté rigoureux de Bach et tout ça, et puis le goût d'Elvis Presley. Vous voyez, c'est très mélangé tout ça, et puis ça a donné, voilà ce que je fais, quoi.
Ça sert un peu d'avoir de l'expérience pour écrire des chansons ?
Ce que vous appelez l'expérience, ça fait que, au lieu de penser comme au tout début, j'y arriverai jamais, on se dit, je sais que je vais y arriver un moment. Ça va être pénible, mais je sais que je vais m'en sortir. Mais c'est tout, sans ça...
Vous vous êtes vraiment dit, au début, j'y arriverai jamais ?
Non, mais quelquefois... On se dit, oui, je rêve ma chanson, j'en rêve, je vois comment elle doit être, avec des jeux de mots, avec des machins, puis elle doit dire ça. Et puis on n'y arrive pas, puis on n'y arrive pas, puis on peut rester quelquefois des semaines et des semaines. Par exemple, avec Laurent Voulzy, on a fait une chanson qui s'appelle « La balade de Jim ». Comme elle est partie, Jim, elle est née, Jimmy boit du gin, dans sa cristal. Alors, ben alors, on avait les deux premiers vers, comme elle est partie, Jim, elle est née, Jimmy boit du gin, dans sa cristal. Bon. Et avec ça, eh ben, on a pataugé. On a pataugé. Il trouvait une musique, alors je continuais les paroles sur la musique qu'il venait de faire. Et puis le lendemain, il venait me voir, il me disait, ça ne vaut pas du tout la musique, j'aime pas, faut changer. Donc faut changer toutes les paroles et tout là. Mais on est resté peut-être presque un mois, tous les jours, à changer tous les jours et à devenir fou. Et ça doit être pareil pour les romanciers. Je pense souvent aux romanciers. On doit être habité par son roman, par ses personnages, on doit y penser tout le temps. Ça doit vous prendre la tête, et les chansons, c'est un peu comme ça, ça vous prend la tête aussi.
Vous y pensez tout le temps ?
Oui. Dans les moments où je fais un disque. Moi, en regardant la télévision, en parlant avec ma femme, ou en dînant chez des amis, j'y pense tout le temps. C'est les métiers qui envahissent la tête. C'est sympa en même temps.
Je pense que chaque album qu'il a fait...
Ours et Pierre Souchon, musiciens, et fils d'Alain.
Ils sont toujours repartis à zéro avec les mêmes questionnements avec Laurent, même quand ils sortaient de gros succès. De toute façon, le succès, ça tétanise après. Donc après, l'album, c'est déjà ça. Je pense que il était aussi fragilisé avant de commencer un disque. Il sait qu'il est attendu au tournant. Voilà, il a toujours été rassuré avec Laurent. Et là, Laurent ne pouvait pas être trop sur les compos de cet album parce qu'il était sur d'autres projets. Du coup, il a trouvé en nous ce côté rassurant qu'il a normalement avec Laurent. Alors, on s'est même déguisé en Laurent Voulzy au début.
Sans blague.
On avait des lunettes, des fausses dents du bonheur. Non, on déconne, mais je veux dire, on a essayé de faire en sorte qu'il ait ses repères. Mais comme il avait l'habitude de travailler avec Pierre, c'était assez naturel. Mais là, oui, le fait que depuis 10 ans, ça a basculé dans autre chose, tout le monde le met en référence... le met en chef de file d'une certaine chanson, ça lui fait extrêmement plaisir, il trouve ça trop, et ça le tétanise aussi. Lui-même, quand il était jeune, il mettait en référence Georges Brassens et Léo Ferré, et lui, d'un coup, se retrouve, cette personne-là, c'est trop, et en même temps, ça lui fait très plaisir, on le voit. Il y a quelque chose d'un peu, comment dire, iconique, ou... et du coup, ça le tétanise, c'est-à-dire que tout le monde lui dit, c'est déjà ça, c'est une magnifique chanson, full sentimental, c'est dingue. Du coup, après, quand on est devant sa feuille blanche, j'essaie d'imaginer mon père, à chaque phrase, il doit se dire, mais là, c'est beaucoup plus fade que c'est déjà ça, c'est beaucoup plus fade que ici, en plus, il n'y a personne. Il doit se dire ça, enfin, ça doit être dur de trouver un moteur quand on lui pointe certaines chansons en disant qu'elles sont des piliers. Voilà, c'est particulier. Alors, il essaie de se détacher de ça et de garder une espèce de légèreté, de fraîcheur. Et c'est pour ça que souvent, dans les interviews, il désamorce toujours... parce qu'il trouve qu'on donne un peu trop d'importance, parfois aux chanteurs, aux acteurs. On sait que ça peut avoir une chanson à dimension sociétale, peut vraiment aider les gens et tout, mais voilà.
Vous savez ce que je pense ? On me dit, oh mais vous avez 75 ans, vous venez de faire un album qui marche, que les jeunes aiment bien, vous en vendez beaucoup. Et je me dis, bah... j'ai pas fait exprès, j'ai fait comme je peux, et il se trouve que ça coïncide avec un certain goût, mais je ne fais pas exprès, je me dis pas, tiens, je vais parler des années 50, alors que tout le monde parle que des années 60, donc je vais plutôt faire les années 50s et tout. Je me dis pas ça, ça vient comme ça, naturellement, tout seul. J'ai pas de plan. Reb.
Mais il n'y a pas eu des moments où vous êtes...
Moi, je suis parti en me disant... je fais des chansons, d'accord. Si je deviens une grosse vedette, je ne veux pas devenir con. Je sais que ça donne la grosse tête. Je sais que ça rend idiot. Je le sais, j'ai vu des gens jeter leur micro qui valait une brique, les foutre par terre en disant « Ouais, vous réglerez le son quand je... » J'ai vu comment c'était. Je fais attention. J'ai même pas envie, c'est ma nature. Forcément, quand on est né très connu, on a une sorte de petit pouvoir et tout. Et il me dégoûte, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce pouvoir.
Ours m'a dit...
Ours.
Ours m'a dit que ça fait à peu près une dizaine d'années que vous avez changé de statut, d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous êtes devenu...
Président de la République.
Quasi.
J'adore.
Vous êtes devenu une référence.
Je vais faire un petit signe de croix si ça vous arrive. Non, pour me protéger, c'est juste. Je fais partie du paysage, je sens bien. Une référence, je ne sais pas.
Mon père, dans son cas, il est assis, comme il le dit dans une de ses chansons, en haut de son belvédère. Il regarde le monde de son petit hublot. Alors c'est ça, faire des chansons, c'est passer ses journées à contempler. C'est pas le chanteur contestataire, le poing levé, qui a cette posture. C'est l'air de rien, il pose un regard sur les choses.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville. Des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume. Je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et les dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux. Les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France. Avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin les Anglis et Rouen derrière et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. Du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fanion Bannière. Plaisir et souffrance, entre les barrières, passe le Tour de France. La gloire a des chemins, durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre des trucs. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On voit tout de là-haut. Un terrain en pente, au-dessus de la ville. Des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume. Je regarde le soir et je fume.
Merci beaucoup, hein.
Ah bah écoutez, c'était un plaisir.
Merci à Ours, Pierre Souchon, Clément Ducol, Maxime Le Guil, Florent Touzellier et à toute l'équipe du label Parlophone.
Laurent Voulzy.
Souchon & Co. a été préparé par Marie Mougin et Valentine Chedebois. La mise en onde était assurée par Anne-Sophie Ladonne, le mixage par Basile Bocquer et Vincent Godard. La semaine prochaine dans Pop & Co, je vous parle du rôle de la musique dans la présidentielle américaine et on entrera dans les coulisses d'une chanson de Jeanne Chéral.